Le magazine Femina de VOA Afrique.
De nombreuses femmes sont soumises à la tutelle de leurs époux, encore élevés au rang de chef de famille par les codes et lois de certains pays. Qu'en pensez-vous? Que savez-vous des lois de votre pays en matière de droit au travail ou à la succession? Pensez-vous qu'une fille ou une femme doit avoir la même part d'héritage qu'un garçon ou un homme? Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Nathalie Barge pour vous accompagner dans ce débat sur le droit à l'égalité des statuts entre citoyens et citoyennes. Ce sont les questions qui vous ont été posées sur la page Facebook de VOA Afrique et nous avons justement comme invitée à Dakar en ligne une spécialiste du matriarcat en Afrique, le docteur en droit privé Fatou Kiné Camara, enseignante et chercheure militante des droits humains, féministe plus précisément, et co-auteur du livre L'Union matrimoniale dans la tradition des peuples noirs, écrit donc avec Saliou Samba Maladio Kandji, avec une préface de Abdoulaye Bara Diop, donc un livre que l'on trouve à l'édition Harmattan. Madame Camara, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour, merci de l'invitation.
Alors, dans toutes les régions du globe, les lois discriminatoires à l'encontre des femmes sont toujours en vigueur et continuent d'être adoptées. Quelles que soient les traditions juridiques, de nombreuses législations continuent d'institutionnaliser le statut de citoyen de second rang des femmes et des filles en matière de nationalité, de citoyenneté, de santé, d'éducation, de droits matrimoniaux, de droits en matière d'emploi, de droits parentaux et de droits d'héritage et de propriété. Alors ça, c'est le Haut Commissariat pour les droits de l'homme qui l'écrit. Madame Camara, dans un premier temps, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, pourquoi vous avez écrit ce livre dont j'ai parlé tout à l'heure?
Oui, parce qu'il y a une sorte de loi du silence sur les cultures matriarcales, sur les traditions matriarcales, sur les civilisations matriarcales. Il y a une globalisation du patriarcat qui ne date pas d'aujourd'hui. Quand on parle de globalisation, il faut oublier que ça date de la période de la traite des esclaves et de la traite des êtres humains noirs. Et qu'à partir de là, on a tout fait pour étouffer, pour effacer de la mémoire de l'humanité tout ce qui avait été fait, que l'Afrique avait une civilisation et quelle était cette civilisation. Donc aujourd'hui, après la traite esclavagiste, il y a eu la colonisation qui partait du même postulat que c'était des peuples qui n'avaient pas de civilisation, des peuples sauvages qu'il fallait civiliser. Donc là encore, une négation totale de la décivilisation, de la civilisation africaine. Et on en est venu aux indépendances à reproduire le modèle colonial. Donc ces lois-là coloniales sont encore là, elles sévissent encore. On n'est pas sorti du paradigme colonial et c'est la raison pour laquelle c'était important pour moi de faire connaître autant que possible, grâce à des recherches très fouillées, ce droit qu'on veut occulter, que l'on veut oublier.
Alors, dans votre livre,
le droit matriarcal, c'est-à-dire le droit négro-africain, ça avait déjà été fait par Cher Antonio dans un livre d'anthologie qui s'appelle L'unité culturelle de l'Afrique noire, domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique, que je recommande vraiment à tout chercheur ou à tout Africain qui s'intéresse à l'histoire de son continent.
Alors, vous expliquez, en somme, dans votre livre, que finalement, le matriarcat était en vigueur dans beaucoup de régions en Afrique, c'est ça?
Exactement. C'est-à-dire que c'est ça le système de l'Afrique noire, négro-africain, c'est le matriarcat. Après, il faut qu'on s'entende, hein, le patriarcat, c'est clair, c'est la dictature d'un sexe sur l'autre. C'est un système d'oppression qui est fondé sur la hiérarchisation des êtres humains. D'abord sur la base du sexe, et ensuite sur plein d'autres critères, ce qui a permis aussi l'esclavage, qui est typique des sociétés patriarcales. Le matriarcat, c'est différent. C'est un système de collaboration des sexes, surtout un système d'humanisation des relations sociales. C'est un système de généralisation de l'égalité des sexes, de l'égalité des droits de tous les êtres humains. Ça a l'air incroyable de le dire, mais quand on regarde, on fait de la recherche, on regarde nos langues, on regarde nos systèmes sociaux, c'était la solidarité, c'était l'entraide, c'était vraiment le respect de chaque être humain, mais aussi le respect de la nature, le respect de tout ce qui nous environne. C'était ça le système que nous avions. Et je peux le détailler dans tous les domaines économiques, politiques, on le retrouvait. Par exemple, je donne juste un exemple, parce que c'est aujourd'hui le grand problème de l'Afrique, c'est quelle démocratie? Eh bien, la démocratie, on l'avait chez nous. C'est quoi? Je le dis d'abord en Wolof. C'est Pencho, Diso, Wartan, Boudibo. Pencho, ça veut dire, c'est le système des assemblées. À commencer par les assemblées à la base. D'abord, les assemblées de quartier, les assemblées de village, les assemblées de province, etc. Diso, c'est le fait de se concerter, de ne jamais décider seul. Et Wartan, Boudibo, c'est la fameuse palabre africaine qu'on a tellement décriée, dénigrée, avec des ricanements. Mais c'est quoi? C'est le fait de dire, il faut qu'on négocie,
mais
il faut qu'on se
Madame parle, Camara, qu'on arrive Madame à Camara, excusez-moi, dans cet exemple que vous donnez, dites-moi si je me trompe, on a le sentiment que dans ces assemblées que vous citez, ce sont généralement, en particulier, des hommes qui sont les chefs de ces assemblées, non?
Eh bien, justement, non. Et c'est ça qui est intéressant. Et je vous demande, pour corroborer, montrer que... allez voir, c'est facile sur Internet, la charte de Kourou-Kanfouga. C'est dit dans un autre livre de Sherhamza qui s'appelle « Les racines culturelles d'un État fédéral d'Afrique noire », où il parle d'assemblée de femmes. Dans le royaume de Dahomey, il dit quand les troupes françaises, coloniales françaises, sont venues pour attaquer le roi Béanzin, il y a d'abord eu l'assemblée des hommes qui s'est consultée, qui a dit ils sont trop forts pour nous, il faut capituler. Et l'assemblée des femmes, qui s'est réunie la nuit, pas parce qu'il y avait que les sexes étaient séparés, mais parce qu'ils avaient des occupations différentes. Donc les femmes avaient surtout le temps la nuit de se réunir. Et quand les femmes se sont réunies la nuit, elles ont dit pas du tout, il faut résister, il faut combattre. Et les hommes ont entériné la décision de l'Assemblée des femmes. Et ça, c'était partout en Afrique comme ça. Il y avait des assemblées d'hommes, assemblées de femmes, assemblées de jeunes. Et il fallait que pour chaque décision, on demande à chacun qui était concerné, quelle est votre opinion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les femmes qui avaient toujours le dernier mot. Et c'est ça le matriarcat aussi.
Ok, ça c'est intéressant. Alors nous avons, Madame Camara, restez bien avec nous, hein. J'aimerais avoir votre réaction après avoir entendu cet auditeur Mavé Chisambika de Kananga en RDC. Comment allez-vous? On vous écoute.
Je vais très bien, madame.
Alors, allez-y, exposez votre point de vue sur le sujet.
Merci beaucoup. Un sujet très intéressant, madame. Je crois que l'invité sera d'accord avec moi. Depuis la création du monde, on sait que la femme a été créée pour soumettre à l'homme, pour ne pas dire son mari.
Mais ça, c'est vous qui le dites. Mais ça, c'est vous qui le dites, non?
Oui, alors.
Ça, c'est vous qui le dites.
Allô?
Oui, oui, je vous écoute. Continuez, on vous écoute. Continuez,
voilà.
S'il vous plaît.
D'accord. Donc, je disais, depuis la nature, personne n'est censé ignorer cette loi de nature que la femme reste toujours inférieure à l'homme. Aujourd'hui, avec l'avènement de la mondialisation et la parité, nous avons constaté que tout a changé totalement et on ne sait pas qui est supérieur par rapport à l'autre. Et on nous dit là, la femme doit hériter, doit recevoir le même droit que donc la part égale avec l'homme. Donc, c'est ce que nous ne comprenons pas. Est-ce que l'invité peut être avec moi par rapport à cette loi naturelle que nous connaissons tous de la Bible, que la femme doit soumettre aux ordres, donc doit être supérieure à plutôt.
Oui, mais là vous interprétez la Bible à votre manière. Mais bon, c'est une réflexion intéressante et on n'a pas fini de l'entendre encore. Hein. On le sait bien, Madame Camara. Qu'est-ce que vous pensez de la loi de la nature? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Mavé?
C'est exactement le message de l'école coloniale et de certaines religions qui ont pris d'assaut l'Afrique. Mais si on regarde la tradition africaine, nos langues langue, les archaïsmes de la langue, si on regarde nos contes, si on regarde nos mythes de fondation, et si on regarde aussi notre art traditionnel. On part à l'Égypte, allons à l'Égypte ancienne, regardez les grandes statues qu'ils ont faites, hommes et femmes à dimension hauteur égale, pour montrer l'égalité. Vous regardez aussi la stature africaine, c'est toujours la même chose. Vous regardez certains de nos adages, je le dis en Wolof parce que c'est la langue africaine que je parle, que chacun vérifie dans sa langue, on dit « Ndit Ndeidi Sirvel », Garna Lettede, ça veut dire quoi ? Ndit, c'est le leader. Le leader est une femme, une mère de jumeaux. Elle doit se coucher sur le dos. Ça veut dire que le matriarcat, ça veut dire le leader est féminin, mais dans quel sens ? C'est une mère, cela veut dire, on sait tout ce que c'est que la maman, c'est la tendresse, c'est la générosité, mais c'est aussi l'équité, mais c'est aussi l'ordre. Attention, il faut de l'ordre. Mais tout ça, dans beaucoup de tendresse, dans beaucoup de générosité. Et quand on dit oui, la femme était inférieure, je répète, c'est le message qui est venu avec la colonisation et avec ce que l'on appelle les religions révélées. Mais les religions africaines ne portent pas ce message. Malheureusement, comme je dis, la globalisation nous a mis de côté les religions africaines. On parle de païens. Dès l'instant qu'on n'est pas dans les religions qui ont pris d'assaut le continent, on nous traite de païens, de d'incroyants, alors que si on regarde nos mythes de fondation, on regarde nos religions, d'abord on avait les prêtresses, on voit que dans les religions qui ont pris d'assaut l'Afrique, on n'accepte pas que les femmes soient dans des officiantes de ces cultes. Donc on voit bien que c'est un message importé, ce n'est pas un message autochtone.
Mais Madame Camara, justement, qu'est-ce qui est fait en Afrique au niveau sensibilisation ? Je vais prendre comme exemple la réflexion de Mavé Chisambika, qui pense, ce qu'il a dit, il y a énormément d'hommes qui le pensent sur cette terre, encore, et des jeunes, Mavé avait l'air très jeune à sa voix, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui est fait au niveau de la sensibilisation pour que les jeunes, finalement, apprennent un petit peu plus à penser par eux-mêmes plutôt que de reprendre ces sortes de coutumes ancestrales, finalement, qui sont basées sur plutôt des rumeurs que sur des textes en soi ?
En fait, quand on parle de coutumes ancestrales, il faut savoir que le droit coutumier africain, il évolue. Et regardez aujourd'hui, les États qui se présentent comme étant des États, droits de l'homme et tout, quand ils ont été attaqués par les vagues terroristes, la sécurité, c'est qu'ils reviennent sur des valeurs et il y a tout un débat, ils prennent des lois, on dit, mais attention, c'est des lois liberticides. Donc il faut savoir que l'Afrique a été, mais pendant des centaines d'années, il faut savoir aussi que la traite esclavagiste, c'est d'abord eu la traite arabo-musulmane, dès le 7e siècle. Donc du nord au sud, de l'est à l'ouest. Après, il y a eu la traite occidentale. Donc, toute l'Afrique a été la proie de ce qui, aujourd'hui, frappe les sociétés occidentales et qui font que certaines sociétés, on ne les reconnaît plus. Elles sont dans le sécuritaire. Donc, et c'est ce qui nous est arrivé. Nos coutumes ont dû s'adapter à ce qui leur arrivait, c'est-à-dire des exodes massifs, des chasses à l'homme, à l'être humain, hommes, femmes, enfants, des massacres. Donc, il faut bien savoir que les coutumes ancestrales que l'on voit aujourd'hui ou depuis quelques siècles, depuis 200 ans, depuis la colonisation, ce n'est pas ce qu'il y avait au début. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller aussi loin que possible, et c'est ça que je dis, c'est le travail qu'a fait Cheikh Anta Diop, c'est le travail que fait Théophile Obenga, et ce qui est triste et grave, c'est que nos hommes politiques ne reprennent pas ça. À une exception près, évidemment, il y a Thomas Sankara qu'on connaît bien, malheureusement, il s'est fait assassiner, il y a Nelson Mandela, il y a ces grandes figures, mais il y a chez nous aussi la loi sur la parité, c'est la seule loi au monde où on dit qu'il faut un nombre égal d'hommes et de femmes sur les listes de candidatures à peine d'irrecevabilité. Et nous, on a la société civile sénégalaise féminine a mené ce combat, mais en partant de nos traditions, en disant que c'est la colonisation qui a mis fin au leadership féminin.
Et au niveau
c'est
du
la colonisation qui a mis fin au règne. Et le président de l'époque, le président Abdoulaye Wad, a repris notre propre slogan que la parité c'est notre héritage pour dire oui, attendez, regardez notre histoire, il y avait de grandes figures féminines, donc c'est ça qui a permis l'adoption de la loi sur la parité en 2011.
Et au niveau du code de la famille, des lois familiales, est-ce que vous êtes toujours sous l'ancien code, le code Napoléon ? Est-ce qu'il y a des progrès ? Est-ce que la femme est toujours soumise à certaines volontés du chef de famille, donc l'homme considéré comme tel ?
Oui, malheureusement. Je trouve une des grandes tristesses ici, c'est que nous avons un des codes de la famille les plus archaïques du continent, parce qu'il est repris du code Napoléon, tel qu'il était dans les années 60 en France, donc avant les grandes avancées que les féministes ont fait. Donc c'est un code qu'on dit code de consensus, mais consensus de qui ? Les femmes n'étaient pas du tout partie prenante à l'élaboration de ce code, pas du tout, ni dans le comité de rédaction, ni à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, sur 80 personnes, quand le code est venu, il n'y avait qu'une seule femme. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Donc on voit bien que ça a été le code des hommes. Après, disons non, c'est le code de la femme, pas du tout. C'est un code qui a repris le code Napoléon, l'homme est le chef de la famille, il choisit le bénéfice conjugal, la femme est obligée de le suivre, la recherche de paternité est interdite, les successions discriminatoires dans lesquelles on ne voit pas du tout les successions successions africaines. Il y a les successions de droit musulman, c'est très clairement inscrit. Il y a les successions de droit commun, qui sont les successions napoléoniennes. Encore qu'il y a quand même une relative égalité dans ces successions-là, même s'il y a quand même toujours la distinction entre enfant naturel et enfant légitime. Mais les successions de lignagères africaines, elles ne sont pas dans le code. Et ce principe de l'homme chef de famille, ça nous poursuit partout dans le droit des impôts qu'on a changé récemment en 2008. Ça nous poursuit dans la sécurité sociale, ça nous poursuit dans le code pénal. Donc c'est vraiment très grave et c'est évidemment en contradiction avec notre constitution qui pose le principe de l'égalité homme-femme depuis l'indépendance, avec toutes les conventions sur les droits humains que nous avons signées et ratifiées depuis longtemps.
Alors, avant que l'on prenne un autre auditeur, je voudrais citer ce commentaire d'un Facebooker, Malgoubri Aruna Senior, qui dit « C'est vrai que les communautés africaines sont dites patriarcales. » Enfin, il parle d'aujourd'hui, j'imagine, mais la femme y joue un rôle fondamental dans la prise de décision, bien que ce soit de façon discrète. Une réflexion intéressante. Hein. Seuls les hommes qui n'ont pas compris cette complicité, dit-il, tentent de s'imposer à la femme. Il ajoute, je doute fort que les femmes africaines veuillent de la liberté dont jouissent les occidentales et qui leur permet de se séparer d'un époux dictateur, dit-il. Ajoutant, en Afrique, le statut de femme mariée vous donne des rôles sociaux que l'on refuse à une femme célibataire ou divorcée. Alors ça, c'est encore un autre problème, effectivement. On peut parler des veuves également, non ?
Oui, mais là encore, il faut voir que, je vous ai dit, il y a une évolution qui est partie d'une évolution vers l'abaissement de la femme, vers le statut de la femme occidentale. Donc tout ce qu'on nous dit là, qu'elle n'avait pas de liberté, ce n'est pas vrai. Le droit de divorcer était reconnu à la femme, et c'est même ce qui garantissait la stabilité des ménages, c'est parce que l'homme savait qu'il n'avait aucun moyen de retenir chez lui une femme qui voulait partir. Donc il était obligé de bien se comporter. Et c'est un droit donc qui est reconnu aux deux. Hein. Le mariage n'était pas du tout une prison, c'était une association librement consentie, où chacun devait bien se comporter afin que le couple puisse rester. Et évidemment, il n'était pas dans l'isolement. Il y avait toute la famille des deux côtés, les deux familles qui étaient là pour aider parce que les mariages, ce n'étaient pas deux individus, c'était deux individus qui représentaient leur famille. Et donc, les familles étaient là pour aider la partie du couple qui la représentait à être bien dans le ménage. Donc, on n'était pas du tout... Il faut bien comprendre que le matriarcat, ce n'est pas l'autoritarisme, ce n'est pas l'absolutisme, c'est pas... Il faut obéir. Le matriarcat, c'était la concertation constante, c'est la négociation en tout. Aider la famille, c'est la raison pour laquelle la démocratie africaine est tellement évidente et facile.
Excusez-moi, Madame Camara, ce que vous appelez le matriarcat, en fait, ce n'est pas un principe qui fait que la femme serait chef de famille. Il n'y a pas de chef de famille, en fait, ou bien ?
En fait, ce qu'il y a, c'est des matriarches, c'est-à-dire des aînés. Il y a des aînés et il y a les camarades. Donc les camarades sont là, filles et garçons, votre groupe d'âge, pour vous aider dans toutes vos responsabilités sociales, dans tout ce que vous faites. Et puis il y a les aînés qui sont là lorsque la question ne va pas se régler au niveau du groupe, vous allez voir l'aîné, le stade supérieur. Et si au niveau de la famille, l'aîné n'arrive pas à régler la question, là on pourrait aller voir le chef du village. Donc il y avait plein de strates. Et au milieu de tout ça, il y avait des systèmes de médiateurs et de médiatrices qui étaient mis en place. Là encore, je vous renvoie à la charte de Kourou-Kanfouga qui est sur le net. Et vous verrez comment est-ce que ces systèmes, et ce qu'on a mis en place aussi en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la parenté à plaisanterie, tout cela était là pour permettre que les discussions puissent se faire, les médiations puissent, que les conflits puissent s'apaiser dans la concertation, dans la négociation et pas dans l'imposition, l'autoritarisme. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il faut obéir. Donc même les enfants avaient le droit de quitter le domicile conjugal. Là encore, j'en appelle à la charte de Kourou-Kanfouga, sachant très bien que chez moi, je dis chez moi au Sénégal, c'était la règle. Aujourd'hui, malheureusement, le système patriarcal dit à l'enfant. Il faut rester chez soi, à la femme, c'est la même chose, alors que ce système de pouvoir quitter le domicile parental ou quitter le domicile conjugal qu'on appelle Fey en Wolof, ça permettait de mettre en place automatiquement un système de médiation pour demander à la personne qui est partie qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, et faire un va-et-vient entre là d'où elle vient et pourquoi elle est partie pour essayer de remettre les choses en place dans la négociation et la médiation.
Donc en fait, c'est peut-être un petit peu confus parfois parce que d'une manière générale, les gens pensent peut-être que le matriarcat finalement c'est une espèce de domination par les femmes, mais ce n'est pas du tout le cas, en fait. C'est un autre principe, un autre fonctionnement de société.
C'est la civilisation de la mère. de la mère fondamentale, de la mère rêvée, c'est-à-dire de la mère qui est... C'est une civilisation de l'amour. Et moi, je demande à tout... Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'auteurs francophones qui travaillent sur le matriarcat. Il y a Cher Antonio, il y a Théophile Obenga. Et dans le monde anglophone, il y a Ifi Amadioumé. Et vous verrez, et d'autres, et vous verrez que chaque fois, c'est ce qui revient beaucoup. C'est l'amour du prochain, c'est la xénophilie, le fait d'aimer l'étranger, le fait d'essayer d'être une société d'inclusion et surtout pas d'exclusion, que personne ne se sente laissé de côté dans ces sociétés. Mmh. Malheureusement, ça ne s'enseigne plus. Donc, on en a des lambeaux dans la langue. Moi, je demande à chacun de vous de regarder dans vos langues africaines les termes de parenté qu'on ne retrouve que dans les sociétés patriarcales. Par exemple, la mère de sexe masculin, c'est l'oncle maternel. Le père de sexe féminin, c'est la tante paternelle. Vous n'avez pas de termes spécifiques dans les langues occidentales pour montrer le rôle spécial dans l'oncle maternel ou de la tante paternelle. Ça vient du matriarcat. Donc si vous avez ça chez vous, dites-vous, c'est une preuve de matriarcat. Donc tout ça pour montrer que même les rôles de genre, le sexe n'était pas fermé. C'est-à-dire vous êtes une femme, donc vous ne pouvez être que mère. Non, même les hommes, on leur permettait d'être mère en tant qu'oncle maternel. Et chez nous, en Wolof, le terme oncle maternel, c'est Nidiaï, qui veut dire, quand on le décompose, Nidiaï, celui qui est comme la mère. Et le terme tante paternelle,
pas du tout,
c'est
le...
Bai Adien, c'est-à-dire quand on décompose Bai Digin, le père de sexe féminin. Donc vous êtes...
Merci beaucoup.
Ce qui comptait, c'était le statut social, pas le sexe.
Merci, le sexe
compte aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut être mère, on peut être femme et avoir un rôle qu'on peut considérer comme étant un rôle masculin, comme le rôle de père, ou être femme et avoir un rôle qu'on considère comme un rôle masculin, c'est un rôle... Et pour les leaders, c'est la même chose. Le leader, même si on dit le leader doit être une mère, je l'ai déjà dit, l'homme peut se comporter en mère.
Merci beaucoup, c'est vraiment...
Les leaders ne peuvent être que le sexe féminin ou masculin, non. Mais il y a une norme, des valeurs qui sont considérées comme étant des valeurs de tendresse, de générosité, qui sont associées à la femme, mais l'homme peut adopter et représenter ces valeurs aussi.
Merci beaucoup, Madame Camara. Restez avec nous. Nous avons un autre auditeur en ligne, Youssouf Ouedraogo à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. On vous écoute, Youssouf.
Oui, bonsoir Nathalie, aux invités. Il faut dire que moi, je m'en réjouis déjà d'être africain, du fait que Madame l'invitée se réfère à la tradition, aux valeurs africaines pour la reconstruction de notre société. Je pense que c'est fondamental vis-à-vis de ce que la colonisation a fait, comme elle a si bien souligné. Alors ici, chez nous, pour parler d'héritage, il faut déjà travailler à la construction d'une vie active meilleure, ce qui est encore loin d'être une réalité. En Afrique, où les Africains, dans leur majorité, sont injustement soumis à la mendicité vis-à-vis des dirigeants qui, à leur tour, font la queue à la Banque de la Charité occidentale de la honte sous les ordres de la corruption et tout ce qu'on peut imaginer. Cela dit, en ce qui concerne la place de la femme africaine dans les instances de décision, cela reste un objectif difficile, mais à atteindre absolument si nous tenons à la légalité des chances sans spécificité de sexe. Mais pour l'heure, ce qu'on peut dire à propos, c'est que la femme africaine occupe une bonne place dans les discours parlants, mais pas encore dans les faits ou encore dans les actes. Il suffit de se référer aux différents gouvernements africains pour s'en rendre compte de l'échec de nos dirigeants à promouvoir l'émancipation de la femme, tant bien même qu'on reconnaît en elle un atout majeur pour la civilisation de notre monde. En termes de réforme, on peut citer la Côte d'Ivoire qui a fait un pas important comme un exemple à suivre en Afrique, même si ces lois votées peinent encore à se traduire dans les foyers. Je dirais donc qu'au-delà de l'appropriation malsaine qui est faite dans cette lutte, il nous faut encore plus d'efforts, de courage et de volonté pour y parvenir. Ici, par exemple, à Yamoussoukro,
merci. Excusez-moi, Youssouf, je suis vraiment obligée de vous arrêter. On vous a bien écouté. Merci beaucoup. C'est parce que nous avons deux autres auditeurs en ligne et l'émission arrive bientôt à terme. Nous avons Julienne, notamment. Ah, et justement, elle a raccroché Julienne, mais nous avons Kwasi Ndakofi, donc, qui nous appelle de Guinée, je crois. Côte d'Ivoire.
Oui.
On vous écoute.
Oui, bonsoir.
Comment allez-vous?
Oui, bonsoir, madame.
Comment?
Très bien, madame.
Oui, alors vous connaissez le sujet?
Oui, je connais le sujet, madame.
Alors...
Donc, en fait, il faut dire que... Vous m'entendez?
Je vous écoute.
D'accord. Donc, il faut dire que vraiment, le système matrimonial en Côte d'Ivoire et particulièrement en Afrique est encore en complication. Mais la Côte d'Ivoire fait vraiment un pas qu'il faut reconnaître, qu'il faut vraiment admirer, avec sa loi pour l'égalité des genres et puis pour la violence faite aux femmes. Mais tout, le fond est de reconnaître que cela est encore dans les textes, et non pas de manière pratique. Et c'est bien que nos peuples africains et dirigeants prennent le contrôle de cette vraiment une situation qui pose vraiment à la femme africaine. Voyez-vous, dans un épouse qui est ménage, on remarque que lorsque la femme devient veuve, elle a des complications, pouvoir profiter de tout ce qu'elle a formé depuis trois années avec son mari. Également aussi dans tout ce qui est emploi et travail, on remarque qu'il y a toujours la masculinité qui prend le dessus.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis désolée, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup au docteur Fatou Kiné Camara. Merci beaucoup à tous les auditeurs, à tous les Facebookers et merci beaucoup à Georges Léonard Sagno à la production. À très bientôt. Au revoir.
Arrête. Good night and good luck.